Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour ce nouveau numéro de Mélomanie. Après le déluge d'événements musicaux de fin février et début mars, l'actualité se calme un petit peu cette semaine et revient à ce qu'on pourrait appeler un rythme de croisière. Certains le regretteront peut-être, mais j'avoue que ce retour à la normale est bienvenu parce que nous avions un peu de mal à suivre, il faut bien le dire. La dernière d'Idoménée a eu lieu jeudi au Capitole, refermant une parenthèse particulièrement dense sur la scène de notre opéra national. Pour revenir sur cette production, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés aujourd'hui Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est accompagné de nos deux invités d'honneur, l'altiste Sandrine Martin et le compositeur Vincent Joquin. La première est membre du Quatuor Rose, qui se produit en concert le vendredi 22 mars au Bascala à Bruyère, où va être créé le premier quatuor à cordes du second. Nous vous en dirons plus sur cette œuvre et sur ce concert en seconde partie d'émission. Pour l'instant, c'est l'actualité musicale récente qui va nous intéresser avec Robert Pénavert. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous trois et notamment à Sandrine Martin que nous recevons pour la première fois à Mélomanie. Mais nous allons donc commencer avec Robert Pénavert en revenant sur la production et les représentations d'Idoménée à l'Opéra National du Capitole. La dernière ayant lieu le jeudi 7 mars, comme je le rappelais il y a quelques instants. Une production qui a suscité un grand engouement et qui devrait faire date à Toulouse, Robert.
Oui, je suis bien de cet avis. Alors, pas forcément pour l'intégralité du spectacle, puisque même si la production, vous savez, c'est un spectacle qui était donné en coproduction avec le Festival d'Aix-en-Provence, où elle a été créée en 2022. Alors, c'est évidemment, lorsqu'on voit les artistes de cette production, Satoshi Miyagi, Yukiko Yoshimoto, bon voilà, ce sont de grands artistes, bien évidemment, des scénographes, des metteurs en scène, des décorateurs, etc. Mais évidemment, c'est très marqué par le Japon. Dans la note d'intention du metteur en scène, il est question des soldats morts au Japon, de l'époque féodale jusqu'à la guerre de 39-45. Il est question d'Hirohito. Et Idoménée parle quand même d'un problème qui s'est passé il y a 2000 ans, ou même plus longtemps que ça, au moment de la guerre de Troie.
Largement plus
voilà.
De 2000 ans, oui.
Il y a plus de 2000 ans, voilà. Alors, très honnêtement, je ne suis pas entré dans cette production parce que je ne voyais pas très bien les tenants, les aboutissants. J'étais un peu gêné, mais elle a un avantage. Premièrement, elle est très belle à voir, même si je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'il y avait derrière la direction d'acteur et la volonté du scénographe. Première des choses, et je pense que c'est quand même très important. Alors, je m'apprêtais à dire en même temps, ça laisse les chanteurs chanter, ce qu'on pourrait être en droit d'attendre de toutes les mises en scène d'opéra, et ce qui n'est malheureusement pas le cas, sauf à Toulouse, parce que Christophe Christie est extrêmement vigilant à cela. Nonobstant, tous les chanteurs sont individuellement placés sur des plots qui sont entre 1,50 m et 3 m de hauteur. Et ces plots bougent parce que sous les plots, on le voit par transparence, il y a les âmes des soldats morts, bon, etc. M'en demandez pas davantage. Et donc, chaque fois que les plots bougent un peu, évidemment, la structure tremble un peu. Et donc, ils avaient mis à leur disposition en haut des espèces de barres pour se tenir. Et on voit bien que certains étaient un peu cramponnés à ces barres. Donc, je trouve que quand même... Alors, c'était la première mise en scène de ce Japonais, mise en scène d'opéra. Mais peut-être qu'il faudrait qu'ils regardent un peu quelles sont les contraintes physiques et psychologiques que doivent vaincre les chanteurs d'opéra pour pouvoir chanter comme il faut. Bon, donc... L'essentiel n'était pas là, et si vous voulez bien, Eric, on va quand même passer à l'essentiel. Alors, pour moi, l'essentiel, d'abord, c'est parler de cette œuvre. Mozart a 25 ans, lorsqu'il compose cette œuvre. C'est un moment où il est en train de se débarrasser de pas mal de problèmes. Son père, alors que ce n'était pas un problème fondamentalement, bien sûr, mais du moins de l'emprise de son père, et surtout de l'emprise d'un monsieur dont on a beaucoup entendu parler dans la vie de Mozart, qui était un archevêque, qui s'appelait Colloredo, et qui était son employeur. Et en définitive, c'était un employeur qui le prenait plus tôt, alors que quand même à 25 ans, Mozart était déjà reconnu universellement comme un génie de la musique, et Colloredo le prenait plutôt comme un employé, un valet, etc.
Et un petit garçon.
Et ça, Mozart ne pouvait plus le supporter. Or, en fait, en recevant cette commande de Munich, de l'empereur, c'est une commande très bien payée, et donc ça lui donnait beaucoup plus de liberté, et donc il a un peu plaqué ces deux personnes qui, peut-être, dans le futur, l'auraient empêché d'être ce qu'il est devenu.
Avec voilà. Colloredo, je ne sais pas si c'est Mozart qui a plaqué Colloredo ou l'inverse. Hein.
Oui, ça je crois qu'on ne le saura jamais. Ils se sont quittés et ça me
ils
paraît...
Ils étaient fâchés, ça c'est sûr.
Ils étaient fâchés et ça me paraît important. Et il se retrouve avec cette commande d'un opéra seria. Ah, vous savez, les opéras seria, c'est cette mode d'opéra, voilà, Handel et d'autres, les hommes magnifiés. Et souvent dans ces opéras qui faisaient appel à de la dramaturgie de l'Antiquité, à la fin, évidemment, le prince régnant devait être magnifié. Et donc Idoménée, vous connaissez l'histoire d'Idoménée, qui, bon voilà, il se retrouve, il rentre en bateau depuis Troie, et juste avant d'arriver en Crète, où est son royaume, il se retrouve pris dans une tempête. Et le malheureux, il promet à Neptune, qui est le dieu de la mer, donc de lui sacrifier la première personne qu'il rencontrera sur la plage en accostant. Et la première personne, c'est son fils Idamante. Voilà. Alors, pendant un temps, il va lui mentir. Enfin, je vous ai raconté ça la dernière fois, donc j'arrête là.
Oui.
Mais finalement, bien évidemment, mais pourquoi je faisais référence à la dramaturgie des opéras seria, c'est parce qu'en fait, tout finit bien. Puisque donc, Idamante consent à être sacrifié, son père consent à le tuer, et au moment où la lame fatale va s'abattre sur le cœur de ce pauvre garçon, Neptune dit « Non, ça va, j'ai compris, vous êtes des gens bien, et je veux que l'amour triomphe. » Donc, le prince régnant, évidemment, est magnifié dans cet opéra. Mais c'était un peu la tradition, ça. Que nous raconte surtout cet opéra ? Le fait, je pense... que Mozart soit libre de sa plume, en définitive, va lui donner une dynamique que peut-être il n'aura jamais plus après. Dans Idoménée, nous entendons des choses qui annoncent très clairement le plus grand romantisme, y compris Wagner. C'est-à-dire que, par exemple, il n'a pas voulu que les récitatifs accompagnés soient séparés de l'air qui suit. C'est-à-dire, il n'est pas question d'applaudir, vous savez, comme les opéras de Verdi, que j'adore bien évidemment, mais les opéras italiens, très souvent, le ténor ou la soprano finissent sur un contrut, tout le monde applaudit, et puis le drame s'arrête, parce qu'en fait, des drames, il n'y a pas beaucoup, finalement. Et Mozart ne l'a pas voulu, ça. Il a dit non, moi, je vais fabriquer quelque chose. Et là, il est novateur. Dans sa musique elle-même, il nous fait entendre des choses qui ressemblent à des leitmotifs que Wagner reprendra, que Weber reprendra. Donc, il fait preuve là, vraiment, d'une modernité. Et d'ailleurs, je crois que son biographe moderne, Robin Sandon, avec qui j'ai eu la chance de discuter, me disait, mais je pense qu'à un moment, il a eu peur de ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu poursuivre. Et après, cela dit, il a fait des choses magnifiques, la trilogie d'Aponte, etc. Bon, voilà. Mais il y a des choses initiées dans Idoménée qui ne va pas poursuivre, peut-être comme m'a dit Robin Sandon. Peut-être que ça lui a fait peur, en définitive. Et donc, pour interpréter cette partition extrêmement difficile, on a un jeune chef italien qui s'appelle Michele Spotti, qui vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Marseille, ainsi que de l'Orchestre Philharmonique de cette ville-là. Et là, honnêtement, il m'a fait... Bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai entendu XX fois Idoménée en France, en Allemagne, en Autriche, etc. Mais jamais j'ai entendu cet Idoménée. C'est d'une modernité. Il nous a fait entendre un Idoménée de chair, de sang, de larmes, d'émotion, avec de l'action également, même, voire du suspense. C'était absolument extraordinaire. Et comme me disait Michele Spotti, il me dit « J'ai pu faire ça parce que j'avais l'Orchestre National du Capitole, qui est un orchestre virtuose. Il n'y a qu'un grand orchestre pour jouer Mozart comme ça. »
Beau compliment.
De la part de Michele Spotti,
oui.
Oui, effectivement. Michele Spotti, c'est un mystère pour personne. Maintenant, il commence à être appelé, booké à New York, enfin, bon, etc. Voilà. Enfin, nous avons eu la chance de l'avoir, et d'autant plus que nous l'avons toujours dans nos murs, puisque c'est lui qui dirige la Cenerentola. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de lui pour la Cenerentola. Voilà. Et il adore parler de Rossini, parce que c'est avec Rossini qu'il a débuté sa carrière. Et, comme il me disait précédemment, c'est le compositeur que je connais le mieux. En plus de cette approche, alors je ne sais pas si on peut dire informée, je ne sais pas du tout si on peut dire ça comme ça, mais cette nouvelle approche, une approche très moderne susceptible, je pense, de faire aimer l'opéra seria aux jeunes générations. En plus de cela, Christophe Christy avait réuni une distribution exceptionnelle. Très difficile, pourquoi ? Parce que dans cet opéra, il y a peu de personnages, il y en a 6, et en fait, sur les 6, il y a 4 ténors.
Non, il y en a 7, pardon. Ça, c'est vraiment une rareté. 7 personnages et 4 ténors.
Et 4 ténors.
Bon, c'est vraiment une rareté.
Voilà. Alors, ce qui est difficile, non, bah, de trouver des ténors, ça se trouve. Mais il faut trouver des ténors, premièrement, de qualité, mais en même temps, des ténors dont le timbre de voix, pour quelqu'un qui a décidé de fermer les yeux, arrive à être différencié. Et ça, Christophe Christy l'avait trouvé. Alors, il nous a fait découvrir tout d'abord, pour la première fois, un ténor américain s'appelle Ian Cosiara, qui chantait le rôle-titre. Alors, c'est vrai que le rôle-titre...
Qui, lui, est un spécialiste du rôle. Hein.
Voilà, lui, c'était pas... Pour tous les autres, ce sont des prises de rôle. Hein. Alors, lui, bon, bah, lui, c'est un ténor. On voit bien que derrière son idoméné, il y a Max Dufresne-Schultz, il y a Lohengrin, il y a une voix quand même très très large. Mais il sait complètement la contrôler, il sait affronter les épouvantables vocalises du Fort Del Mar, mais je ne sais pas comment il fait, il est capable de faire des tris, enfin, voilà, donc c'est un grand interprète, vraiment. Et avec ce timbre très corsé qui convient à un roi.
Puisque vous en parlez, avant que vous parliez du reste de la distribution, si vous voulez bien, on va l'écouter tout de suite, Ian Cosiara. Il a été un magnifique idoméné donc au Capitole, et on va le réécouter dans un des airs les plus célèbres de l'opéra de Mozart. Vous l'avez cité, Fuor del Mar, c'est vers le début de l'acte 2.
Già principessa, quei che esprime veri sentimenti per il prince sarebbe forse, ahimè, sentimenti d'amor, gioia di spene. Non m'inganna reciproco l'amore. Troppo qui davanti a sciorre quelle catene, sollecito tu fosti. Ecco il delitto che te unisce il ciel. Si sia nettuno il figlio, il padre, vittime saranno sulla rai stessa, dai qual dolore afflitte, una dal ferro e due dal duol trafitte.
Fuor del Mar, air de l'acte 2 d'Idoménée, chanté par Ian Cosiara, qui tenait donc le rôle titre de l'opéra de Mozart à l'opéra national du Capitole. Alors, le reste de la distribution...
Le reste de la distribution, alors bon, effectivement, tous les autres rôles étaient en prise de rôle, ce qui n'est pas rien quand même, parce que tous ont de grandes parties à chanter. Alors là, moi, je trouve que le coup de génie de Christophe Christy, c'est d'avoir retenu un ténor français qui s'appelle Cyril Dubois.
On connaît déjà pour l'avoir entendu quelques fois au Capitole.
Une fois.
Alors une seule fois à l'opéra, mais on l'avait entendu
oui,
aussi dans les Britain.
Mais au Capitole, une fois.
Oui.
Il faisait le cœur mal du viol de Lucrèce.
Le viol de Lucrèce, voilà. Toujours Britain. Oui.
Voilà. Et là, il a fait venir pour la version ténor La version voulue par Mozart, rappelons-le, de
Idamante.
Voilà, Idamante. Vous savez que maintenant, la grande tradition, sous des prétextes de version informée, voilà, on le sait, lors de la création, à Munich, Mozart s'est trouvé avec un castrat pour chanter Idamante. Donc, il a écrit en conséquence, bien sûr. Hein. Mais 5 ans après, lorsque l'opéra a été donné à Vienne, immédiatement, il a réécrit pour ténor parce que c'était sa volonté, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, malheureusement, on n'a pas trop de traces de cette recréation, puisqu'en fait, à Vienne, c'était donné par une troupe d'amateurs. Donc, on n'a pas trop, non pas du tout même, les traces des interprètes de ce moment-là. Mais il n'empêche que Mozart s'est dépêché vraiment de réécrire pour ténor, c'était sa volonté. Mais en même temps, dramatiquement, ça se justifie complètement, hein, bien sûr. Idamante est le fils d'Idoménée, point. Et à pas le faire chanter par une mezzo-soprano, manière de faire, comme je disais, dans l'air du temps des baroques. Voilà. Donc, c'est Cyril Dubois. Et franchement, là, pour tout le monde, ça a été le coup de foudre complet.
Oui,
parce que d'abord, c'est un véritable artiste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que chanter.
Oui, oui.
Et derrière, il y a un acteur, il y a quelqu'un de très très sensible. Et Dieu sait si Idamante est un rôle complexe, sensible et inépuisable à fouiller, plus la voix. Et donc, voilà, il nous a fait un Idamante absolument extraordinaire. Du coup, cette version comprenait un air qui très souvent, parce qu'il est très difficile, hein, très souvent est supprimé, « Non temer amato bene », et qui d'ailleurs s'est transformé plus tard en air de concert, parce qu'il est tellement virtuose, tellement brillant, que Mozart même lui-même l'a retravaillé pour en faire un air de concert. Mais il n'empêche que l'original appartient à Idoménée. Et c'est cet original que Cyril Dubois nous a chanté et qu'il a terminé, mais sous un tonnerre d'ovation. Voilà.
Il a époustouflé tout le monde.
Voilà, il a époustouflé tout le monde, oui, absolument. Voilà. Cyril Dubois, à mon avis, il n'y a pas deux ténors comme lui aujourd'hui. D'abord, la couleur de la voix, la technique, la souplesse vocale. Il n'y en a pas deux comme lui pour chanter.
Et l'incarnation aussi de son rôle.
Bien évidemment. Ensuite, évidemment, il faut trouver... Alors oui, quand je parlais, parce qu'il faut... À nouveau, je reviens à l'orchestre. Mais cet air dont je viens de vous parler, « Non temer amato bene », c'est un air avec violon obligé. Et donc, évidemment, au Capitole, on avait le premier violon
de
l'orchestre, Christik Gesi. Voilà.
Gesi.
Bon. Voilà, tout le monde a compris, c'est bien. Voilà, inutile de vous dire que juste les 4 phrases de violon avant que Idamante attaque le non temer.
Non, mais c'est un formidable musicien.
Il nous a mis en apesanteur complète. C'était des moments de grâce, des moments que personne n'oubliera. Voilà. Ensuite, il y a un rôle qui très souvent est délaissé, y compris dans les enregistrements, même les enregistrements les plus prestigieux avec Gardiner, etc. C'est le rôle du confident d'Idoménée, qui s'appelle Arbatsch, qui est une personne d'un certain âge, mais qui est à nouveau un ténor. Voilà. Et là, Christophe Christy nous a fait revenir l'Alma Viva des dernières reprises du Barbier de Séville, un jeune ténor tchèque qui s'appelle Peter Nekoraneš. Et vu la qualité de cet interprète, du coup, on lui a laissé les 2 airs. Le 2 airs qui a un récitatif extraordinaire, parce que dans le 2e air, quand on y fait un peu attention, ce récitatif, je crois que je l'ai déjà dit, mais je répète, ce récitatif, c'est exactement celui de Norma avant le Casta Diva, dans le texte. Entendons-nous, puisque autant Norma annonce la fin de Rome, autant lui annonce la fin de Sidon. Voilà. Mais c'est exactement pareil. Encore une fois, Mozart, 25 ans, et il s'aventurait sur des terrains absolument incroyables. Et Peter Nekoraneš nous a fait une démonstration, mais absolument stupéfiante, de vocalise, de demi-teinte, de tri. C'était...
On va reparler de ce chanteur dans quelques minutes.
Alors, il y a un 4e ténor qui, bon, lui, n'a pas grand-chose à faire, mais encore faut-il...
bien le faire.
Voilà, il s'appelle Kazimierz Pischer. Franchement, lui aussi, il était digne de cette distribution. Ensuite, on passe aux dames, quand même, parce qu'il y a Ilia. Ilia, c'est Marie Perbos, que l'on connaît bien. Et, bon, même si le soir de la première, on la sentait un peu instable, parce que c'est vrai qu'elle était vraiment cramponnée au garde-fou, parce que son praticable bougeait beaucoup, ouais, donc Voilà. Mais bon, quand j'ai eu la chance de l'entendre une deuxième fois, bon, elle avait appréhendé le vertige et ça s'est mieux passé. Et c'est une prise de rôle qui est parfaitement concluante, bien sûr. Je suis persuadé que dans les mois, voire dans les années à venir, si on lui repropose ce rôle, on entendra encore bien d'autres choses beaucoup plus achevées.
Surtout si on lui propose un terrain stable pour l'interpréter.
C'est mieux.
Alors, le terrain stable, c'était l'autre soprano qu'il avait, puisqu'elle, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette production, mais elle était la seule humaine. Et donc, elle n'était pas sur les plots, elle était au sol. Et je ne sais pas si c'est lié, mais elle nous a fait, donc c'est évidemment le personnage d'Electra. Electra, c'est celle de Strauss,
c'est
exactement
oui.
La même. Donc on voit déjà que c'est un personnage un peu à fleur de peau, etc. Bon, il faut savoir que dans Idoménée, elle est la rivale en amour d'Ilia. Sauf que si Electra aime Idamante, Idamante ne l'aime pas et préfère Ilia. Voilà. Bref. Donc elle est là, 3 airs. Et c'est la soprano que l'on connaît bien, Andrea Soare. On l'a déjà entendu au Capitole plusieurs fois. Le premier et le troisième sont des airs dits de furie. Mais je peux vous dire que le troisième air de furie, elle a mis la salle debout, mais vraiment debout. Elle a été volcanique. Voilà. Alors ça ne l'empêche pas, dans l'air du centre Idol Mio, mais vraiment de faire preuve d'un phrasé, de nuances, de beaucoup, beaucoup de musicalité. Alors les chœurs, ben, c'était pas les chœurs du Capitole.
C'était les éléments cette fois-ci.
C'était les éléments, puisque les chœurs du Capitole travaillaient au Théâtre des Champs-Élysées pour Boris Godounov. Et donc c'était la chorale, la très belle chorale de
Joël Subiette.
Voilà. Mais vraiment un spectacle vocalement, musicalement, esthétiquement magnifique.
Qui fera date,
c'est sûr.
Prochaine échéance au Capitole, très bientôt, avec une nouvelle production de la Cenerentola de Rossini, ou Cendrillon si vous préférez, du 29 mars au 7 avril. Il y aura 8 représentations. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous en reparler à Mélomanie d'ici la fin du mois. Et à propos de Cenerentola, il se trouve que c'est l'opéra et le rôle préféré de Juliette May, qui rêve de l'incarner un jour sur scène. La jeune mezzo-soprano toulousaine a été distinguée le 29 février dernier à Montpellier, lors de la cérémonie des victoires de la musique classique. Elle a reçu la victoire de la révélation artiste lyrique de l'année. Je crois que vous ne la connaissez pas encore, Robert Pénavert, mais je suppose que vous vous réjouissez tout de même que la formation musicale toulousaine
ait
enfin été récompensée dans le domaine lyrique. Ouais. Jusqu'à maintenant, on avait eu beaucoup d'instrumentistes récompensés, mais c'est la première fois qu'on a une chanteuse récompensée lors des victoires de la musique classique.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une mezzo-soprano. Alors, je marche sur des œufs parce que pour ne l'avoir jamais entendue en direct, il faut toujours se méfier de la retransmission. Malgré des prises de son absolument extraordinaires. Voilà. Mais ce que l'on peut juger quand même, c'est le timbre de voix, qui est très chaleureux, qui est très... Il est très velouté. Ensuite, l'artiste est extrêmement musicienne, elle maîtrise les trilles, un peu dans l'exercice de haute voltige qu'elle nous a donné aux Victoires de la Musique. Elle faisait un clin d'œil assez appuyé à Cecilia Bartoli, très clairement. Bon, je ne dis pas que c'est ce que je préfère dans le bel canto, mais il n'empêche que ça montre quand même une technique vocale hors pair. Hein. Ensuite, la voix est assez longue, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture de registre entre l'aigu, le médium et le grave. Et poitrine très très peu, ça veut dire que la voix est très longue. Et voilà, et maintenant, donc, il me tarde de l'entendre en direct. Voilà.
Ben, peut-être au Capitole dans les années qui viennent. Bon, j'imagine que Christophe Gristy a un œil sur elle. Bon, elle aime beaucoup Rossini, elle aime beaucoup le baroque aussi. Elle est passée par le pôle des arts baroques du Conservatoire de Toulouse. Et puis, c'est une ex-membre de la maîtrise de Toulouse. Voilà, donc son parcours se poursuit. On espère qu'il l'amènera très loin. On va avoir le plaisir de la réécouter. Juliette May dans un air fameux de la Cenerentola, l'opéra de Rossini, Naquit alla fano e al pianto. Naquit à la Fano e al Pianto, air extrait de la Cenerentola, l'opéra de Rossini, chanté par Juliette May, distinguée donc le 29 février dans la catégorie Révélation artiste lyrique lors des récentes victoires de la musique classique. On espère bien sûr, je le redis, la voir et l'entendre bientôt sur la scène du Capitole, où Robert Pénavert a assisté ce même 29 février au récital du ténor tchèque Petr Nekoranec, au moment où celui-ci était également l'un des brillants protagonistes d'Idoménée, où il tenait le rôle d'Arbace. Robert l'a rappelé, il s'est produit dans le cycle des Midis du Capitole, accompagné par le pianiste Vincenzo Scalera. Et je ne crois pas exagérer en disant que vous vous êtes régalé une nouvelle fois en l'écoutant, Robert. Nekoranec, c'est vraiment une très grande voix et une belle voix.
Alors, grande, ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire par grande? Bon, c'est pas Jonas Kaufmann, c'est pas... Non, c'est une voix de ténor somptueuse, mais très clairement. Voilà, mais qui a son répertoire à lui, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose dans ce Midi du Capitole? Enfin, quand on ouvre le programme, premièrement, c'est une invitation au voyage. Alors, pas l'invitation au voyage...
De Baudelaire.
Voilà, non, c'est pas... C'est, en fait, il nous prend par la main, il nous amène en Italie, il nous amène ensuite en Hongrie, il nous amène en Norvège, il nous amène en Suède, en Tchécoslovaquie et en Russie. Et tout cela, évidemment, dans la langue originale, parce qu'il faut savoir que ce jeune artiste parle 6 langues couramment. C'est absolument incroyable de l'entendre parler français, par exemple.
Les Slaves sont doués pour les langues.
Voilà. Et donc, je crois que j'ai oublié de citer la France, mais effectivement, il y avait la France. Alors, pour la France, il avait sélectionné Reynaldo Hahn, Claude Debussy et Gabriel Fauré. Et quand on sait combien la prosodie est importante dans ces mélodies, c'était un sacré challenge. Mais voilà. Alors, bon, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait tout compris au Théâtre du Capitole, pour ce Midi du Capitole. Des gens capables d'apprendre dans le texte, le français, il y en avait beaucoup.
Le hongrois, mais enfin, le norvégien, le suédois, le hongrois, le roumain.
Le tchèque, c'est un peu difficile. Mais voilà, mais il y a eu un miracle. C'est le miracle d'un artiste qui arrive à vous faire vibrer, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Par le miracle seul de sa voix, le charme, je dirais même le charme de sa voix, la vibration, la musicalité, le velours, les intonations, la dynamique, il est arrivé à nous prendre à tous. En plus, j'ai oublié, mais il a également donné pour la première fois en France un cycle britannique d'un compositeur britannique actuel, et d'ailleurs qui lui est dédié.
Yann Bell.
Ça a été écrit pour lui, qui parle de guerre. On n'a rien compris, évidemment. Enfin, si, on a compris un peu quand même, c'était en anglais. Mais il est arrivé à nous étreindre la gorge comme ce n'était pas possible. Vraiment, ça, c'est le signe indiscutable d'un immense talent. Et en plus, il était accompagné par Vincenzo Scalera, qui a été le grand accompagnateur de nombreuses années de Carlo Bergonzi, Montserrat Caballé, Renata Scotto, etc. La Caballé ne voulait pas donner un récital si ce n'était pas Vincenzo Scalera qui était au piano, c'est dire. Et donc là, il s'est révélé un partenaire, mais exceptionnel. Voilà, le chanteur et le pianiste nous ont fait passer une heure fabuleuse. Et en bis, il a donné l'aromasse de Nadir des Pêcheurs de Perles.
Et oui, ça lui allait très très bien, il a le timbre pour, et on va l'écouter, cette magnifique voix de ténor de Petr Nekoranec. Je vais vous proposer d'écouter une nouvelle fois Dans l'air de Nadir, des Pêcheurs de Perles, l'opéra de Georges Bizet, Je crois entendre encore.
Thank you.
je crois entendre encore air toujours poignant de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles, superbement chanté par Petr Nekoranec, un chanteur qu'on espère vite revoir au Capitole. Cette première partie d'émission, très lyrique, ma foi, est terminée. Une courte virgule musicale et on se retrouve avec Robert Pénavert et nos deux invités d'honneur, Sandrine Martin et Vincent Joquin, pour la rubrique Agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et nous revoici pour l'agenda de Mélomanie que nous allons ouvrir avec le concert que donne le Quatuor Rose vendredi 22 mars au Bascala, cette belle salle de spectacle située à Bruguière, au nord de Toulouse. Au programme, il y a les 4 saisons de Vivaldi, mais aussi 3 pièces d'Astor Piazzolla, ainsi que la création du Quatuor à cordes de Vincent Joquin. C'est le deuxième qu'il a composé, et non pas le premier comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons vous présenter tout ça en détail, mais auparavant, on va mieux faire connaissance avec l'ensemble qui va interpréter ses œuvres, et avec vous, Sandrine Martin, par la même occasion, dites-nous quand a été formé le Quatuor Rose et par quel musicien il est constitué, parce qu'il s'agit d'une formation entièrement féminine, d'où son nom sans doute. Je me trompe ?
Pas que.
Ah, pas seulement.
Bon. Voilà, mais si, c'est un quatuor féminin. Donc, nous avons fêté nos 1 an, là, en février, en fait. 1 an de création de quatuor, parce que nous nous connaissons depuis un petit moment déjà. Donc, je vais présenter les 4 musiciennes. Il y a Justine Vicens, qui est premier violon du quatuor. Anne Gallo-Selva, second violon. Donc, moi-même, altiste. Et Lucille Gambini, qui est violoncelliste. Donc, moi, je connaissais Lucille du lycée.
On s'est retrouvés. Donc c'est vraiment une voilà. Amitié ancienne.
Voilà. Et après, pour les Anne et Justine, nous nous sommes rencontrés à l'Orchestre de Chambre Occitania, donc, dans lequel on joue ensemble depuis... Enfin, moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans, cet ensemble. Et Justine et Anne jouent depuis un peu plus longtemps dans cet ensemble.
Mais parce que vous avez toutes joué dans des formations, des orchestres régionaux.
Alors, toutes, voilà. Enfin, Justine joue avec l'Orchestre du Capitole, là, voilà. Alors moi-même, je suis nouvelle altiste parce que j'ai une première partie de carrière de violoniste où je jouais à l'Opéra de Lyon et à l'Orchestre du Capitole. Et Anne joue beaucoup à l'Orchestre du Capitole et l'Orchestre de Montpellier. Et Lucille est plus dans la musique actuelle, elle a joué aussi dans des orchestres nationaux.
Est-ce que vous êtes toutes passées voilà. Par le Conservatoire de Toulouse ?
Alors Lucille et moi, sinon Justine elle vient de Perpignan et Anne vers Lyon je crois.
Il y en a une qui n'est pas originaire de la région Occitanie.
Ouais, mais bon, elle a migré, elle habite ici maintenant.
Bon alors elle est pardonnée.
Donc nous en tous les cas on a créé ce quatuor parce que l'année dernière on était toutes regroupées à Toulouse. Et c'était pour les Candlelight au départ et là on a voulu se diversifier, d'où le projet avec Vincent que j'ai rencontré au conservatoire l'année dernière. Et éventuellement là aussi on a d'autres projets et on joue au festival de Jazz en commun au mois de mai.
Ah, Jazz en commun ?
Oui.
Mais vous allez jouer quel type de musique ?
Alors, on joue une création, donc c'est avec le Blue Train Quintet, voilà, avec Loger, la famille où ils sont en
trio. Loger et Philippe Loger,
voilà, c'est ça.
Philippe Loger
voilà.
Et son fils, sans doute.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une création, le quatuor et leur quintet, donc on commence les répétitions la semaine prochaine, et ça sera le 10 mai, voilà, au festival Jazz en commun.
Alors, ce qui vous a réuni toutes les 4, c'est quand même, je suppose, l'amour de la musique de chambre, l'envie de jouer ensemble, bien sûr, l'amitié.
Voilà. L'amitié qu'on a créée au sein de cet ensemble d'orchestre de chambre. Et puis aussi l'aspect de ne pas vouloir faire exclusivement que du classique, fait d'avoir cette ouverture un petit peu vers la pop, le jazz, voilà, ouvrir un petit peu les styles. Et ça a été un peu le moteur en fait, de la création de ce quatuor. Et donc la création d'un nouveau d'un quatuor contemporain aussi.
Ça, on va parler bien sûr avec voilà. Vincent Joquin. Alors en dehors donc du quatuor à cordes de Vincent Joquin, il y a 4 autres œuvres au programme, donc les 4 saisons de Vivaldi, bon, on ne va peut-être pas les présenter, mais voilà, ça sera la première fois que vous allez les jouer ensemble.
Alors nous, on les a joués au sein des Candlelight pas mal de fois, donc pour Justine, c'est bien parce que c'est quand même, en gros, elle a toutes les parties concertantes au premier violon, et nous, on fait la partie orchestrale, donc c'est quand même un concerto pour violon, on peut dire, et ça, on l'a pas mal joué, donc on est rodés. La création de Vincent, ça sera la première fois. Et ensuite, on a voulu faire un lien entre Vivaldi et Piazzolla, parce que Piazzolla avait écrit les 4 saisons.
Les saisons, voilà. Ouais.
Et donc, bon, on n'a pas fait les saisons, parce que ça aurait été quand même un peu dense. Et donc, on s'est dit qu'on aimait bien toutes le tango aussi. Donc, on a choisi 3 tangos, Oblivion, le Muerte del Angel, et le troisième...
Libertango.
Libertango.
Oui, ouais. C'était difficile d'y échapper voilà, à celui-ci avec voilà, Oblivion. Ce sont des arrangements pour Quatuor à cordes.
Voilà,
il en existait plusieurs, d'ailleurs.
Bon, on a essayé de trouver, enfin, en tous les cas, on a essayé de trouver un qui soit assez cohérent. Parce que nous, on n'est pas... Personnellement, je ne réécris pas. Je ne suis pas arrangeuse. Donc, voilà, du coup, on a déchiffré certains. On s'est positionné sur ces 3 arrangements qui semblaient cohérents. Et voilà.
Chose que je n'ai pas précisée qui est importante, c'est que c'est un concert à visée caritative.
Oui, pour ARCT, c'est une association par rapport au cancer.
Tumeur cérébrale. Recherche pour le cancer, c'est donc contre la lutte contre les tumeurs cérébrales. Donc. Bon, on va parler du Quatuor à cordes de Vincent Joquin que vous allez créer le 22 mars au Bascala, mais on va écouter d'abord une des autres pièces au programme de ce concert, le fameux Libertango d'Astor Piazzolla en version pour Quatuor à cordes. Libertango d'Astor Piazzolla en version pour Quatuor à cordes, joué ici par le Berlin String Quartet. C'est une des trois pièces du compositeur argentin au programme de votre concert du 22 mars au Bascala. Il y a donc aussi les quatre saisons de Vivaldi en version Quatuor à cordes. Inutile de les présenter, je l'ai déjà dit. Et puis, vous allez donc créer le deuxième Quatuor à cordes de Vincent Joquin. Comment est née cette collaboration entre vous et le Quatuor Rose, Vincent Joquin? Alors, vous vous êtes croisés au conservatoire, voilà. Tous les deux, c'est vraiment parti de votre rencontre.
Oui, c'est parti de Sandrine et moi-même, mais pas au conservatoire de Toulouse, au conservatoire de Blagnac, où Sandrine enseigne. Voilà, et moi j'y étais parce que, pour plusieurs raisons, j'ai trois de mes enfants qui sont au conservatoire de Blagnac, et j'ai des commandes aussi du conservatoire de Blagnac, donc je suis tout le temps au conservatoire. Et on a souvent discuté. Je ne savais pas qu'elle jouait dans ce quatuor où je connaissais déjà Lucille et Anne.
Voilà.
Et puis en discutant, je ne sais pas, elle m'a dit « Envoie-nous des partitions. »
Donc ce n'est pas une commande en fait, c'est juste la discussion.
C'est une discussion. J'ai envoyé, ça leur a plu. Et je me suis dépêché d'écrire parce que je n'avais pas terminé d'écrire. Quand elles m'ont dit « On pourrait le jouer en mars. » Alors du coup, j'ai dit « Allez, je vais terminer. » Ce qui est assez stressant parce qu'on n'a pas envie de terminer pour terminer. Et bon, voilà. Ça s'est fait simplement. Très simplement.
Et l'inspiration de ce Quatuor à cordes, c'est quoi? Les influences, l'inspiration?
Alors l'inspiration, et ça c'est toujours très compliqué de répondre à l'inspiration, parce que c'est à la fois tout et rien l'inspiration. Il faut être juste contemplatif pour avoir l'inspiration, je pense.
Oui, c'est une des bonnes bases.
Voilà, mais après, aucun sujet précis.
Non, là, c'est pas la nature, c'est
non,
pas...
Non, si ce n'est l'envie de faire de la musique purement instrumentale. Et le Quatuor à cordes, je trouve que c'est le...
Alors, l'inspiration est vague, si je comprends bien. Par contre, les influences, est-ce qu'il y en a?
Alors ça, les influences, ça, c'est pas vague. Il y a évidemment, surtout quand on écrit un quatuor à cordes, il y a Haydn, Mozart, Schubert.
Eh oui.
Voilà. Alors, je dis pas Beethoven, c'est pas que j'aime pas Beethoven, mais Beethoven, dans le quatuor à cordes, il a pris une autre voie, qui est pas mon modèle, on va dire. Évidemment, j'admire Beethoven, mais la question n'est pas là. Et après, avec cette base, on va dire, vraiment classique, assumée, Haydn, Mozart, Schubert. Après, je suis né en 1976, donc...
Quelle idée !
Il y a du jazz, il y a beaucoup d'harmonie, oui, issue du jazz, ça, c'est sûr. Et après, c'est très difficile, oui. Mais la base, c'est ça, on va dire Haydn, Mozart, Schubert.
Combien de mouvements ?
Un. Alors, c'est la grosse différence avec mon premier quatuor.
C'est précision importante.
Mon premier quatuor est en trois mouvements, vraiment à l'ancienne.
Oui.
Et plus ça va dans ma musique, plus j'essaie de penser à quelque chose de très important qui est le public. Et on n'est plus dans le même temps qu'il y a 200 ou 300 ans. Donc, il faut arriver à faire la même musique, mais en condensant les choses, les idées. Donc, à peu près tout ce que j'écris maintenant, c'est d'un seul bloc.
En un souffle.
Voilà. Même si, elle peut en témoigner, on peut déceler trois mouvements. Parce
oui,
qu'il y a,
oui, à l'intérieur.
Y a,
ouais.
Voilà. Mais c'est vraiment un bloc.
Il dure combien de temps ?
13 minutes, 13. Quelque chose comme ça.
13 minutes. Ouais.
Alors, quand il vous a montré la partition, vous, Sandrine Martin, comment vous l'avez reçue ?
Alors déjà, comme il explique, il avait écrit le début. On a déchiffré, on lui a dit, vas-y, ça nous plaît. Moi, il y avait certaines œuvres que je reconnaissais, d'ailleurs. Après, on s'était mis d'accord. Mais... Donc voilà, et puis après, on a attendu la suite avec impatience. Et franchement, c'était... Non, mais on était ravis de le créer. Et puis surtout, voilà, que ça parte d'une histoire comme ça, d'une rencontre... toute simple, et donc Vincent est venu nous aider quand on avait monté l'œuvre pour quand même les histoires de les notions de phrasé aussi, où on n'était pas on était toutes parties d'un coup d'archet qui finalement on n'était pas forcément
Oui, parce qu'on croit qu'en musique tout est écrit, mais non.
Non,
tout n'est pas écrit.
On avait anticipé quelque chose qui finalement c'était pas trop vers
et surtout en fait moi je pense que c'est pas un problème ni qui vient de moi ni d'elle. C'est que comme c'est une musique qui quand même regarde vers le passé, mais qui n'est pas que du passé, on pourrait la jouer comme on jouerait du Mozart ou du Schubert, mais ça marche pas. Parce qu'il y a une autre énergie probablement du fait qu'elle est écrite aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des parties pris de phrasé qu'on
ne
peut pas écrire. En fait.
Des réflexes.
On
ne
peut pas écrire sur la partition.
Ah ouais.
Et donc elles avaient des réflexes normales.
Oui.
Mais enfin des réflexes normaux. Mais je veux dire, c'était normal, leur attitude était tout à fait normale, mais je les ai aiguillés ailleurs.
Alors pour la création d'une œuvre, pour un compositeur, bon, j'imagine que c'est toujours une grande émotion. Là, il y a deux phases. Il y a la phase des répétitions.
Mmh.
On voit la chose déjà prendre forme. Et puis, il y a le concert lui-même. Vous devez attendre ça avec grande impatience. Il peut y avoir parfois vraiment des surprises au moment de la création.
Eh bien, oui, pour le meilleur et pour le pire.
C'était sous-entendu. Inutile de le préciser.
Si c'était à la répétition, quand même, normalement, il n'y aura pas trop de surprises.
Non, la répétition s'est très bien passée. Moi, j'ai pas de mauvaise surprise, parce que parfois, à Valécon,
oui,
c'est quand même des instruments
qu'on...
Les surprises, ça va être l'orchestre en général.
Oui.
Parce qu'on maîtrise pas forcément toujours les dynamiques et la masse. Mais avec le quatuor, on a peu de surprises. Donc la surprise est pas là. Non, la surprise, elle est toujours agréable, c'est que la musique existe. Jusque-là, elle n'existe que dans notre tête. Quoi.
Alors, malheureusement, elle n'existe pour l'instant que dans votre tête et dans les doigts du quatuor
et
rose. Donc, je ne peux pas la faire écouter. Je peux pas faire écouter d'extrait de ce quatuor à cordes de Vincent Joquin, puisqu'il n'est pas créé. On va tout de même pouvoir écouter votre musique avec cet extrait d'un autre quatuor. C'est un quatuor pour guitare que vous aviez composé il y a quelques années, qui avait été créé, il me semble, lors du rendez-vous musical. Mmh. Et ce quatuor avait un très joli titre, « Les songes avant l'aube ».
Thank you.
Songe avant l'aube, interprété par le quatuor Bergamasque, un quatuor pour guitare composé par notre invité Vincent Joquin. Le quatuor rose va donc créer son quatuor à cordes le deuxième vendredi 22 mars au Bascala à Bruguière, lors d'un concert qui commence à 20h. Il y a aussi au programme les 4 saisons de Vivaldi et 3 pièces d'Astor Piazzolla, Libertango, La Muerte de l'Angel et Oblivion. Avant cette date, ce vendredi 15 mars, Toulouse Guitare présente son avant-dernier rendez-vous de la saison en accueillant la grande guitariste espagnole Margarita Escarpa à la salle du Sénéchal. La soirée commence également à 20h avec une première partie où de jeunes guitaristes issus du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et issus également de l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts de Toulouse, vont pouvoir montrer leur talent au public comme le veut la belle tradition instaurée par Toulouse Guitare. Cette fois-ci, c'est un duo que nous allons entendre, Louis Michaud et Robin Tahar. Leur programme n'a pas été communiqué, mais ils devraient jouer 3 ou 4 pièces avant le concert de Margarita Escarpa, qui a 49 ans et sans conteste l'une des plus grandes guitaristes classiques actuelles, admirée notamment pour sa musicalité, la sensibilité et la subtilité de son jeu. Elle a remporté de nombreux prix, dont le très prestigieux Guitar Foundation of America, plus de 20 ans avant un certain Thibaut Garcia. Depuis, elle s'est produite régulièrement dans les plus beaux festivals internationaux et sur les plus grandes scènes d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Margarita Escarpa possède un vaste répertoire et se distingue en particulier par les transcriptions qu'elle réalise. C'est aussi une professeure très réputée qui enseigne la guitare à l'Université de musique et des arts de Vienne. Bref, c'est une véritable chance de pouvoir l'entendre en concert à Toulouse, à la salle du Sénéchal, où elle présente un programme très éclectique. Il y a des pièces de Federico Moreno Toroba, Juan Andrés de Mendoza, Fernando Lobo, Rameau, Poulenc et Ida Presti pour la partie française. Je vous propose d'écouter maintenant Margarita Escarpa dans une interprétation d'une pièce d'Antonio Lauro intitulée Carora. Carora, pièce d'Antonio Lauro, jouée par Margarita Escarpa, la grande guitariste espagnole, est en concert à la salle du Sénéchal ce vendredi 15 mars à 20h, à l'invitation de la saison Toulouse Guitare. Et puis je voulais signaler aussi que l'orchestre en harmonie, dirigé par notre ami Serge Krichewski, est en concert ce dimanche 17 mars à 17h à Donzac, c'est dans le Tarn-et-Garonne, à la salle La Clé des Sources, dans le cadre de la saison Au Villard en musique. Le programme est entièrement dédié à Mozart, encore lui, dont vont être jouées les symphonies numéro 1 et numéro 29, ainsi que le concerto pour violon numéro 5, pour lequel l'enharmonie va accompagner Christik Jessy, le violon super soliste de l'Orchestre National du Capitole. C'est vraiment un très joli programme donné par d'excellents musiciens. Nous allons écouter un petit extrait du concerto pour violon numéro 5 de Mozart, son premier mouvement, Allegro aperto. Thank you. Le premier mouvement Allegro aperto du concerto pour violon numéro 5, l'une des trois œuvres de Mozart au programme du concert que donne l'orchestre En Harmonie dimanche 17 mars à 17h à Donzac, à la salle La Clé des Sources, dans le cadre de la saison Au Villard en musique. Renseignements et réservations sur le site www.auvillardenmusique.com. Pour le concert de la guitariste Margarita Escarpa, salle du Sénéchal, vendredi 15 mars à 20h, à l'invitation de la saison Toulouse Guitare, les réservations et la billetterie sont en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Je rappelle enfin que le Quatuor Rose est en concert vendredi 22 mars à 20h au Bascala, à Bruguière, avec au programme les 4 saisons de Vivaldi, 3 pièces d'Astor Piazzolla et la création du deuxième Quatuor à cordes de Vincent Joquin. Il s'agit d'une soirée caritative dont les bénéfices seront reversés à l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Billetterie en ligne à l'adresse www.spectacle.le-bascala.com. Tous mes remerciements à Robert Pénavert, Sandrine Martin et Vincent Joquin d'avoir été les invités de cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry, son réalisateur. Podcast disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale à tous. À bientôt.